L'écho de Pâques, une émission spéciale pour vivre un accompagnement spirituel chez soi en temps de confinement.
Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, en ce vendredi pour cette dernière rencontre avec le frère Jean-Emmanuel de Hena. Bonjour frère.
Bonjour Emmanuel.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes rencontres de cette semaine, je rappelle que vous êtes religieux carme, prêtre, enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, enseignant en théologie, à la faculté de théologie et à l'Institut d'études religieuses et pastorales, et par ailleurs directeur de l'Institut de spiritualité Jean de la Croix. Aujourd'hui, on va parler donc à nouveau, et pour finir, de la pandémie, mais en essayant de voir, on va dire, tout ce qu'on ne voit peut-être pas ou ce qu'on voit plus difficilement, et donc tous les aspects positifs. Pour commencer, même question qu'hier, est-ce qu'il y a une chose positive qui vous a frappé, que vous avez vécu, que vous avez lu, que vous avez entendu, et qui vous dit, on va dire, le bien qui peut sortir de ce mal, frère Jean-Emmanuel de Hena?
Alors Emmanuel, plutôt que de partir sur des grands discours, je voudrais partager avec les auditeurs et avec vous une expérience que j'ai faite qui m'a beaucoup surpris. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai peut-être découvert Zoom, cette application qui permet d'avoir une réunion virtuelle, chacun avec un vidéo, voilà. Or, j'ai été invité, à ma grande surprise, par une amie qui habite en Israël, dont le mari est rabbin, à participer à une rencontre interreligieuse par Zoom. Et cette rencontre interreligieuse, il y avait des personnes qui étaient en Inde, des personnes qui étaient en Israël, des personnes qui étaient en Europe et des personnes qui étaient aux États-Unis. Et nous avons fait une rencontre où on était à peu près 120 personnes, donc de différentes religions, et nous avons pu, il y avait 4 intervenants qui ont fait un enseignement, mais aussi qui ont proposé des prières à la fin de chacune de leurs interventions, et nous avons pu faire ça donc en simultané. Eh bien, c'est une expérience incroyable. C'est le confinement qui a permis, qui a obligé à faire une rencontre interreligieuse par Zoom. Et on a réellement prié.
Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, vous avez partagé sur un texte, chacun a prié?
Non, chacun des intervenants a présenté un texte, oui, ou pas forcément un texte, un petit enseignement. Sur sa tradition, sur sa propre tradition, et comment ce virus interrogeait sa propre tradition religieuse, et donc la partager aux autres. Et puis après, effectivement, partager une prière à laquelle on pouvait s'associer ou pas s'associer, enfin en tout cas on écoutait, et même il y a eu un moment donné où il y a eu un temps de silence, et nous avons partagé ensemble un temps de silence, donc c'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez, ce genre d'expérience change la donne. Parce que c'est des gens réels. Bien sûr, les moyens sont virtuels, mais les personnes sont des réelles personnes. Et c'est une occasion extraordinaire de découvrir que nous sommes dans le même village, que nous partageons le même monde. Pendant très très longtemps, le village d'à côté, c'était le village d'à côté. Vous savez, les fameux esprits de clocher, les querelles de clocher. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. Là-bas en Chine, là-bas en Inde, là-bas aux États-Unis, c'est le même village, c'est la maison d'à côté, la maison d'à côté. Malheureusement, nous partageons ça avec un virus, mais il ne faudrait pas partager qu'un virus, il faudrait aussi partager le désir de s'unir au divin. Je fais exprès de dire le divin, puisque c'était interreligieux, bien sûr, chacune de ces traditions a des visions de Dieu différentes, mais réellement, tous ces hommes, femmes de bonne volonté, cherche un sens aussi à ce que nous vivons, et chacun dans sa tradition essaye de transmettre à ses propres fidèles une espérance. Et pour moi, c'est une très très grande espérance, parce que ce virus nous oblige à dire, bon, est-ce que nous acceptons de vivre dans le même village, ou est-ce que nous allons continuer à nous quereller en regardant, en chien de faïence, et dans la méfiance les uns vis-à-vis des autres, ou est-ce que nous apprenons à nous découvrir?
Alors,
bien sûr, le pire, c'est l'ignorance, c'est l'indifférence à l'autre. Là, on ne peut pas être indifférent. Concrètement, nous sommes dans le même village.
Frère Jean-Emmanuel de Hena, mon autre question chaque semaine, c'est de se demander en fait si il y a un appel du Christ ou de l'Église qu'on entend particulièrement en ces temps. Beaucoup de regards se tournent vers Rome. Radio Présence a fait sa part en proposant donc la retransmission de la messe depuis la maison Sainte-Marthe, la messe célébrée par le pape François le matin à 7h. Vous vouliez insister sur un point, c'est sur la catholicité. Vous disiez que c'est l'occasion de devenir ou de redevenir réellement catholique. J'ai trouvé cette parole dans le catéchisme de l'Église catholique. Elle s'adresse à tous les hommes, donc l'Église, elle embrasse tous les temps. Elle est de par sa nature même missionnaire. Elle s'adresse à tous les hommes, elle embrasse tous les temps, elle est de par sa nature même missionnaire. C'est ça, être catholique ?
Oui, c'est-à-dire, vous savez bien que le mot « catholicos hein, » est un mot grec, et ce mot grec signifie « universel hein. ». C'est pour ça d'ailleurs que parfois on dit l'Église catholique ou l'Église universelle dans notre credo. Hein. Donc oui, être catholique, c'est être universel, mais pas n'importe quel universel. L'universel du genre humain, c'est-à-dire que tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, son langue, sa peuple, qu'il soit juif, qu'il soit païen, qu'il soit blanc, jaune, noir, tout être humain est appelé au salut, à être sauvé par le Christ. Et donc, être missionnaire, c'est annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, dit l'Évangile, annoncez-la à toute la création. Donc, vous le savez, le pape François nous invite beaucoup à cela, hein, à sortir de notre confinement. Et je pense que c'est ça aussi le sens très concret de ce monde d'après. Ne restez pas confinés, ne restez pas avec les portes closes. Jésus veut sortir. Vous savez, il avait dit ça dans son discours. Voici que Jésus se tient à la porte et il frappe. C'est un texte de l'Apocalypse. Et il disait, c'est un peu comme si Jésus était enfermé à l'intérieur et qu'il voulait sortir. Hein, et que donc, d'ailleurs, c'est très très en lien avec nos églises qui sont fermées, où on peut pas célébrer la messe. Parce que, en fait, le Christ veut sortir de nos églises, je crois, pour aller dans chaque foyer. Pour ma part, j'ai relayé un WhatsApp assez drôle dans lequel on voit le diable et Dieu, et on voit le diable qui est tout content, qui dit « Ah, tu vois, j'ai réussi à fermer toutes les églises du monde !» Et Dieu qui lui réplique avec un petit sourire « C'est tout le contraire. J'ai ouvert une église dans chaque foyer. » Ça, je trouve ça génial. Je crois, ma grande espérance, c'est que beaucoup de chrétiens, au lieu de devenir des consommateurs du fait religieux, de consommateurs catholiques, c'est-à-dire qu'ils mettent les pieds sous la table et attendent comme la consommation, comme la société de consommation dans laquelle nous sommes, eh ben, sont peut-être devenus, entre guillemets, producteurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Qu'à la maison, ils ont fait une liturgie, ils ont mis une bougie, ils ont fait un coin prière, ils ont pris le temps de lire la parole de Dieu, de lire l'Évangile. Avec les moyens, ben, comme vous venez de le dire, suivre la messe du pape, écouter ce qu'il a à dire. Autrement dit, ils deviennent acteurs. Mmh. Moi, mon grand espoir, c'est que chaque foyer devienne une église, une ecclésiola, une petite église, pour que chaque famille devenant une petite église, la grande église puisse se retrouver, que nos assemblées, lorsque nous pourrons de nouveau nous réunir, soient des assemblées vivantes, parce que ce sera des assemblées d'assemblées. D'église domestique, vous voyez. Et là, il y a un retour au christianisme primitif. L'église domestique qui permet l'église, la grande église.
Frère Jean-Marc voilà Donat, dans le temps qui nous reste, il y a une dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a aussi un espoir qui pour vous se dessine en dehors, j'allais dire, de la sphère religieuse. Alors, tout est un, mais... J'aime bien demander à mes invités un peu de faire non pas de la politique fiction, mais presque tout le monde rêve d'un monde d'après. Tout le monde explique ce à quoi pourrait ressembler ce monde d'après. Vous, parmi les choses pareilles, vues, entendues ou vos réflexions, quel est ce monde d'après que vous voyez se dessiner ? Et s'il y en a un, à quoi il ressemble ?
Alors, le monde d'après, je ne sais pas ce qu'il sera, je ne suis pas prophète, ni devin. Je pense que le monde d'après dépendra de chacun de nous et de nos conversions personnelles et communautaires. En tout cas, mon espoir, c'est celui qu'a soulevé Laudato Si. Vous savez que Laudato Si du pape François a été reçu bien au-delà du cercle catholique. D'ailleurs, il a peut-être mieux été reçu à l'extérieur qu'à l'intérieur, parfois. Parce que comme c'est écho, écologique, on a vu ça comme quelque chose à la mode. Pas du tout, pas du tout. Le pape montre très bien que ce qui est en jeu, c'est l'homme, l'être humain. Est-ce que l'être humain est au centre de l'univers ? Autrement dit, c'est la question de l'humanisation de cette société. Est-ce que cette société, est-ce que ce monde, il s'humanise ou il se déshumanise ? Et ça, je pense que ce n'est pas une question d'être croyant ou pas. C'est la question de savoir quelle conception avons-nous de l'humanité. Donc, dans ce sens-là, dans mes réflexions, j'espère, et j'essaye de travailler à cela avec beaucoup d'autres, je voudrais travailler à un œcuménisme. Vous voyez, le mot œcuménisme est formidable parce qu'il est constitué de oikos. Oikos, c'est la maison. Et méné, c'est demeurer. Demeurer de la maison. Les habitants de la maison. Et pour ma part, j'espère que le monde d'après va travailler à habiter cette maison qui est notre maison commune. La maison commune, c'est l'univers.
Expression du pape François, d'ailleurs. La maison commune, c'est...
Oui, vive la maison commune. Et un œcuménisme radical, c'est-à-dire qui va aux racines et qui passe par l'intériorité. Parce que si on n'a pas de racines, une maison qui n'a pas de fondation, eh ben, elle s'effondre. Et je crois que c'est ça la grande question qui nous est posée par cette crise actuelle, c'est quels sont les fondements de notre maison commune ? Est-ce que nous pouvons rétablir ces fondements ou les retrouver ? Et c'est évidemment une parabole de Jésus, est-ce que notre maison, et ça vaut pour croyants et incroyants, ou autres croyants, est-ce qu'elle est fondée sur le sable ? Et c'est quand même beaucoup ce que nous prouve cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont sablonneuses, ou est-ce qu'au contraire, elle va être fondée sur le roc ? Et moi, je crois que le vrai roc, c'est Dieu, bien sûr, qui le met, mais c'est l'humanité du Christ, qui nous permettra de bâtir un monde, une maison beaucoup plus solide, même lorsqu'il y a des... On ne nous promet pas qu'il n'y aura plus de tempêtes, souvenez-vous de la parabole, il y a des tempêtes, il y a le vent, mais la maison ne s'écroule pas au milieu de la tempête parce qu'elle a des fondements. Puissions-nous, chacun de nous, avoir des racines, être bien enracinés en nous-mêmes, dans cette création, et du coup, tenir les uns aux autres parce que nous habitons la même maison commune qui, finalement, est habitée par Dieu lui-même, qui est venu sur cette terre. Voilà, en tout cas, mon grand espoir.
Merci, frère Jean-Manuel de Hénin. Merci beaucoup. J'allais dire, on ne se refait pas. Le monde d'après sera forcément un monde, on va dire, spirituel. En tout cas, c'est d'abord par cette révolution qu'il faut commencer. Et j'ai envie de dire, pour reprendre et synthétiser votre dernier propos, un grand merci à vous de nous avoir accompagnés au long de cette semaine, frère Jean-Manuel de Hénin.